et avec colère. Et c'est vraiment un cadeau parce que la colère de Dieu permet de montrer la gravité de ce qui s'est passé. Les amis pourraient se dire, non mais voilà, on s'est juste trompé de cas, mais en fait, généralement, ce qu'on a dit, c'était juste. Mais non, mal parler, c'est mal parler. Parce que la parole a une puissance, et une puissance de vie, mais aussi une puissance de destruction. Et c'est pour ça que Dieu offre deux autres cadeaux avec son indignation. C'est le cadeau de la repentance. Il offre aux amis le cadeau de la repentance, d'aller voir Job, auprès de qui ils ont mal parlé, pour lui demander de prier pour eux et de prier pour leur pardon. Et Dieu offre, en faisant ça, à Job le cadeau du pardon. Il lui offre la possibilité de ne pas entrer sur un chemin d'amertume et d'aigreur face à ses amis, voire de vengeance, mais de croire que pour eux quelque chose de nouveau est possible, tout comme croire que pour lui quelque chose de nouveau est possible, une autre manière de vivre. Et donc Dieu donne le cadeau de la mise en lumière et le cadeau de la réconciliation. Mais tout ça, ça commence par le cadeau de l'indignation de Dieu. Et je crois justement que c'est pour cela que le Nouveau Testament parle de la colère du Père, que la colère est tombée sur le Fils à la croix. Parce que justement, Jésus allant à la croix à notre place pour toutes les fautes humaines, bah c'était la manière que Dieu a choisie. Je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas c'est celle qu'il a choisie. Et elle est en fait sublime pour à la fois révéler la gravité de notre péché. Il a fallu que Dieu meure pour porter le péché des hommes et en même temps nous maintenir en vie. Le seul moyen, c'était ça. Le moyen que Dieu a utilisé, en tout cas, je ne suis pas dans ces projets, mais le moyen que Dieu a utilisé, c'est de permettre que Jésus meure à la croix pour nous. Et c'est un moyen extrêmement puissant de montrer sa colère vis-à-vis du péché de l'homme, qui est à la fois des péchés de violence, mais aussi des péchés de lâcheté, comme on le voit du côté des disciples, et montrer en même temps qu'il veut notre vie, quoi. La croix, c'est comme une mise en scène, mais une mise en scène réelle, et qui nous montre tout ça. Il nous montre que Dieu veut notre vie, parce qu'on n'est pas sur la croix, on est face à la croix, et en même temps que tout le mal, les petits mots, les grands mots que l'on commet, ou les biens que l'on ne fait pas, c'est vraiment grave. Et donc, ce que je vous propose là, c'est de réfléchir sur ces deux questions. Comme les amis, de qui ai-je mal parlé et à qui je peux demander pardon? Mal parlé au sens de dire, de penser des choses fausses sur cette personne. Et il ne s'agit pas forcément de les avoir dit. Hein. Moi, ça m'est arrivé dernièrement, après 2-3 années, d'avoir reparlé à quelqu'un de choses que je pensais sur lui à une époque. Et il me disait, ah, ça se sentait en fait. ça se sentait que tu pensais ça de moi, quoi. Donc je lui ai demandé pardon pour ça. Et voilà, de qui ai-je mal parlé, à qui je peux demander pardon? Ou de qui ai-je mal pensé et à qui je peux aller demander pardon? Et la deuxième question, c'est pour quelle personne qui est prête à une démarche de repentance puis-je prier comme Job? Donc vers qui m'a fait du mal ou qui n'a pas fait un bien qui était normal que je reçoive, vers quelle personne suis-je prêt à, comme Job, tendre la main, non pas pour mettre un coup de poing, mais tendre la main pour relever et puis pour prier. Et là encore, il y a encore un bref témoignage, sans trop de détails, mais il y a vraiment quelque chose de fort à pouvoir prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort et de... Enfin, la vie de Dieu jaillit là, quoi. Comme on le verra dans la deuxième partie. Et pour réfléchir à ces deux questions, On vous propose un chant et puis un temps de silence. Un temps de silence, mais un temps de silence pour à la fois se mettre à l'écoute de Dieu, de qui il vous met à cœur, mais aussi, je pense que c'est important de faire le premier pas. De faire le premier pas, parce que vous pourriez sinon décider ici quelque chose, de parler à quelqu'un, d'aller prier pour quelqu'un, mais finalement ça aille dans l'oubli. Donc, si vous vient quelqu'un, envoyez-lui un SMS et dites-lui « Ah, j'ai un truc qu'il faut que tu dises. » Donc, c'est vraiment le premier pas, c'est enclenché. Parce qu'on lit dans le Sermon sur la montagne, justement, donc l'enseignement fondateur de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Il dit donc au chapitre 5, verset 23-24, « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, » c'est un peu ce qu'on est en train de faire, non ? Et que là, tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir. Et donc, c'est pas seulement que toi, tu en veux à quelqu'un, mais c'est même au point où tu penses que ton frère éventuellement a quelque chose contre toi. Et ben, laisse là ton offrande, laisse là ton chant, et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si la personne est ici, vous pouvez éventuellement aller la voir. Mais si la personne n'est pas ici, faites au moins le premier pas. Envoyez-lui un message ou quelque chose comme ça. Voilà.
Et je vous propose maintenant qu'on chante à la croix, je me prosterne, pour qu'on puisse considérer que bah, c'est justement à la croix qu'on peut se poser et recevoir le pardon et la restauration.
Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Alors tous les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus autrefois vinrent lui rendre visite. Ils vinrent manger avec lui. Ils lui manifestèrent leur sympathie et le réconfortèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Enfin, chacun d'eux lui fit un cadeau d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or.
Dieu trace un chemin, comme on l'a chanté. Dieu a ouvert une porte sur la repentance, à gauche, une porte sur le pardon, à droite. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il fallait que ces deux portes soient empruntées. Par les amis de Job d'un côté et par Job de l'autre. Il en va de même pour nous. Dieu ouvre une porte, trace un chemin, mais c'est à nous d'y marcher. Et ce qui est extraordinaire dans cette deuxième partie, c'est de voir que quand ils y entrent, ben Dieu se met à guérir et à restaurer. Non seulement les relations, ils peuvent à nouveau envisager une amitié à venir, peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour plus tard, mais en tout cas, les choses sont assainies. Mais Dieu, en plus de ça, se met à guérir et à restaurer les personnes blessées. Et donc Job, là, ici, en l'occurrence, qui a été blessé dans son corps, dans son être social de patriarche, de père, et aussi blessé intérieurement par les paroles de son épouse, par les paroles de ses amis, de chacun de ses amis. Il y a cette image que je trouve intéressante dans le poker, c'est le fait de s'aligner les uns sur les autres. Et en fait, j'ai l'impression que Dieu fonctionne aussi comme ça, quoi. C'est selon ce qu'on met sur la table que lui va mettre aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez Dieu. Ce n'est pas la seule logique de Dieu, on va le voir dans le troisième point, mais c'est déjà un point intéressant, se dire, mais si je ne mets rien sur la table, pourquoi Dieu mettrait quelque chose ? Déjà, c'est lui qui a mis la table, donc toute la vie vient de Dieu. Mais voilà, là, il ouvre une porte, il trace un chemin, à nous d'y marcher. Et quand on y marche, ben, Dieu restaure. Dieu restaure, ensuite, dans un deuxième point, les personnes par des personnes. Donc, on le voit dans la réconciliation qu'on a vue, mais aussi dans les autres personnes qui viennent, les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus par le passé, qui viennent. Qui prennent de leur temps, qui accordent de leur attention à Job, qui lui montrent leur sympathie. Et ça, c'est vraiment important pour nous, de bien distinguer ce qu'en théologie classique, on appelle les causes premières et les causes secondes. Dieu est les causes premières de tout. Ça veut dire qu'il permet que les choses aient lieu, quoi. Donc, si je marche, bah, c'est parce que Dieu me donne la vie qui fait que je marche. Mais par contre, les causes secondes, bah, c'est que je marche, enfin que moi, je choisis de marcher, je me mets à marcher. Et en fait, Dieu agit, son moyen de rédemption, c'est vraiment d'utiliser au maximum les causes secondes, et notamment les personnes. Il veut que Job soit restauré dans sa fortune, mais pas par un claquement de doigts, parce que ça grandirait très peu l'amour dans le monde, ça montrerait juste l'amour de Dieu pour Job. Mais alors que là, tous ses frères, ses sœurs, les gens qu'il avait connus autrefois, Eliphaz et ses amis, tous ceux-là qui viennent donner une part de leur bien pour rétablir Job dans le rôle social qu'il avait, et ben ça, c'est la puissance de l'amour qui se manifeste. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est bien, c'est signifié qu'en dernière ligne, enfin chacun d'eux lui fait une pièce d'argent et d'un anneau d'or. Mais qu'en fait, l'essentiel, enfin ce qu'ils offrent d'abord à Job, et ce qui finalement est le plus important, c'est leur temps, leur attention, leur sympathie. Et rappelons-nous-en, quand nous interagissons avec nos frères, nos prochains, que ce dont toute personne humaine a besoin avant toute chose, c'est de l'attention, de la bienveillance, de la bonté, et pas de perfusion, ou est pas d'argent, ou est pas de colis alimentaire, ou de, une pièce, c'est d'abord une relation. Et Jésus nous l'a manifesté, enfin, relisez les vies de Jésus, celles que vous voulez, mais à chaque guérison, il y a d'abord, enfin, c'est la guérison, mais la relation. Avant toute chose, la relation avec lui, Jésus, mais aussi, il réoffre les personnes à leur relation. Il réintègre Zachée à la communauté, etc. Et ça, c'est magnifique, c'est que, en fait, Dieu a pour fin une éternité de communion entre nous, entre personnes de toute l'humanité, et de toutes les époques et de toutes les ethnies, etc. Et de communion avec lui en même temps. Et en fait, le moyen qu'il a prévu pour ça, bah, c'est la communion entre nous et avec lui. Donc en fait, le seul moyen d'avancer, enfin de se préparer au ciel, en fait, enfin de se préparer à la terre renouvelée, bah, c'est de commencer à le vivre autant que possible aujourd'hui. Et c'est ça le sens de l'Église au sens théologique. Donc Église qu'on a vécu cette semaine. Voilà, donc rappelons-nous que Dieu travaille par des médiations et que nous pouvons en être ou ne pas en être, mais c'est... Et aussi que nous pouvons recevoir les cadeaux de Dieu par des médiations. Donc ouvrons les yeux sur les grâces que Dieu veut nous donner à travers les personnes qui nous entourent. Ne soyons pas comme cet homme qui lors d'une inondation très importante dans le Mississippi... était monté sur son toit, et l'eau montait, et avait prié Dieu en lui disant viens me sauver. Il avait déjà les pieds dans l'eau au-dessus de son toit, quoi. C'était une maison à un étage. Et en fait, un canot passe par là, et lui dit mais viens, on a de la place, etc. Il dit non, c'est bon, j'ai un ami qui vient me chercher. Et puis l'eau monte encore, et puis un hélicoptère passe, et puis on lui mégaphone, on vous envoie quelqu'un. Il dit non, c'est bon, quelqu'un a un avis, vient me chercher. Et puis l'eau, après, l'emporte. Et son ami était venu le chercher, mais il n'avait pas saisi la main qui lui était tendue. Donc sachons reconnaître Dieu là où il est. Et Dieu parle par tout type de personnes. Voilà. Et soyons aussi, nous, des consolations, parce que voilà, il est nécessaire que des malheurs adviennent dans le monde, mais heureux ceux qui font œuvre de consolation, comme ses frères et ses sœurs, comme ses amis de Job. Donc, soyons vraiment à l'écoute de comment nous pouvons être les mains, les yeux, la présence de Dieu pour ceux qui nous entourent. Et le troisième point sur ce cadeau de la restauration, c'est que Dieu restaure en amenant les choses à un état plus glorieux que l'état initial. Donc on le voit qu'il doubla les biens que Job avait possédés. Et ça, c'est vrai de toute l'histoire humaine. L'état final sera plus riche, plus glorieux que ce que vivaient Adam et Ève. Il ne s'agit pas pour Dieu de juste rétablir les choses. Mais Dieu, il a un projet glorieux pour nous, il l'avait au départ. Adam et Ève se sont écartés de ce projet-là, mais Dieu va quand même conduire les choses à un état encore plus glorieux.
Oui. On a une idée de combien de temps la souffrance de Job a duré ou pas ?
Non. Au minimum 10 jours.
Plus que
le voyage des amis, enfin... C'est pas l'important, parce que la souffrance, quand elle est intense, c'est pas la durée qui compte, quoi.
C'était pour savoir s'il avait eu le temps de jouer enfin, de la restauration.
Ah, on va le voir. Et là, juste quelques questions pour avant d'avoir un temps de prière, de reconnaissance. Mais c'est pour quelle réconciliation dans ma vie ou autour de moi est-ce que je peux être reconnaissant? Quelle réconciliation dont j'ai été témoin ou dont j'ai été acteur ou que j'ai reçu, je peux être reconnaissant à Dieu et lui dire merci. Ensuite, pour quelle consolation est-ce dont j'ai été témoin ou que j'ai vécu, je peux être reconnaissant à Dieu. Et enfin, pour quel excès de grâce de Dieu puis-je le remercier.
Et du coup, on vous propose de choisir un élément de reconnaissance. et de faire une prière pop-corn qui serait par exemple Seigneur, je te remercie pour et l'élément. Voilà, qu'on puisse tous adresser cela à Dieu.
Bonjour.
Il y a la réconciliation et tout ça.
Oui.
Réconciliation, consolation, excès de grâce de Dieu ou d'autres choses encore éventuellement.
Élévation.
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 Merci Père pour la réconciliation que tu as permis entre mes parents.
Seigneur, merci parce que tu sais restaurer une relation brisée par le miracle d'un pardon. Qui ne vient pas de nous.
Merci Seigneur pour l'excès de grâce. La grâce qui se rend compte, Seigneur, là où le péché avait abondé. Et merci parce que cette grâce nous sauve et tu la communiques aux autres au travers de nous.
Merci Seigneur parce que en me convertissant, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus et j'ai trouvé une famille.
Merci Seigneur pour la grâce surabondante de Jésus à laquelle nous avons toujours accès 24h/24.
Merci Seigneur parce que tu peux transformer un cœur sale et brisé en un cœur rempli d'amour, et tu restaures.
Merci Père. Merci Père, parce que ma coupe déborde depuis un bon bout de temps. Amen.
Amen.
Merci pour ton intérêt et ton amour pour moi, que tu as mis sur mes épaules et que j'ai pas pu porter, c'était tellement lourd. Merci de m'avoir fait craquer comme ça.
Merci Elohim pour les mots parfaits et complètes de l'amour.
Seigneur, je te remercie de m'avoir placé à Toulouse.
Merci pour tes promesses qui produisent l'espérance.
Merci d'être le Dieu de la réconciliation.
Merci parce que tu as pris conscience de ma faiblesse.
Merci Père, parce que quand on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, on sait une chose, c'est que tu nous aimes et qu'un jour tu nous diras que tu ne dises ou pas la réponse, on sait qu'on sera en toi.
Et maintenant qu'on puisse chanter avec reconnaissance qu'il nous a restaurés ou avec espérance, le chant Grâce infinie.
Je vais un peu oublier, tiens. J'arrive.
Merci Père pour ce corps et pour toutes les guérisons enclenchées dans chacune dans
De ses bénédictions, plus encore qu'il ne l'avait fait auparavant. C'est ainsi que Job eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, la seconde Kessia et la troisième Keren Hapouk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur réserva une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Il put voir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la quatrième génération. Rassasié de la vie, il mourut à un âge avancé.
Après le cadeau de l'indignation de Dieu, le cadeau de la restauration, grâce à Dieu, vient le cadeau du royaume de Dieu. Et le royaume, c'est ici, enfin, on voit deux aspects du royaume de Dieu que Jésus a lui-même annoncé, dont il a annoncé la venue prolifique, mais que Job semble anticiper. Le premier, c'est la question du repartage. Job repartage, il reçoit beaucoup et on voit qu'en fait, la chose qui est mentionnée par l'auteur après, par le narrateur, c'est que il prend des dispositions pour repartager à ses enfants. Et Dieu donne vraiment largement pour que nous le suivions dans ce mouvement. Ici, il est question de biens, et donc Job repartage ses biens. Mais Paul, pour nous, dit dans Romains 12, quand il commence à décrire ce que doit être l'Église, donc Romains 12, c'est le premier chapitre de l'Épître aux Romains qui parle de choses concrètes, dans Romains 12, Paul dit, voilà, je vous le dis, ayez des pensées modestes, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans l'œuvre de la foi. Donc chacun a une part, un rôle à jouer. Et il continue en disant, nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons donc des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Et donc, il dit, voilà, certains ont le don de transmettre des messages de Dieu, d'autres ont le don de servir, de rendre service, d'autres ont le don d'enseigner, d'autres ont le don d'encourager, d'autres ont le don de générosité, et aussi de... où ils ont des biens, tout simplement. D'autres ont le don de diriger, et d'autres ont le don d'être auprès des malheureux. Et il dit à chacun de ces personnes, faites-le, et faites-le avec ce que cela signifie. Donc que celui qui a le don d'encouragement, eh bien le fasse. Que celui qui a le don d'enseignement, bah, il le fasse, mais il le fasse correctement. Que celui qui a le don de donner, bah, il le fasse avec générosité, vraiment sans arrière-pensée. Et que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Job est vraiment un modèle pour nous, parce que voilà, il est riche en biens, bah, il donne de ses biens. Et donc, à nous d'apprendre à savoir ce dont nous sommes riches et ce que nous pouvons partager aux autres, mais soyons sans cesse dans un mouvement de partage de ce que nous avons. Parce que justement, ce que Paul dit, c'est qu'un corps a plusieurs parties et qui ont différentes fonctions, mais si celui qui a le don d'encourager n'encourage pas, bah, personne n'est encouragé, parce qu'en fait, les autres ne sont pas vraiment ce don-là. Et s'ils encouragent, ils le font mal, ou ils le font pas de façon très intense. Tout le monde peut donner, mais en fait, il y a des dons, par exemple financiers, en termes de biens, qui font une différence. Et pareil pour l'enseignement, tout le monde peut transmettre des choses de Dieu. Mais par contre, il y en a quand ils transmettent, ça fait une différence. Et donc, sachons là où Dieu nous a donné des choses, où nous faisons des différences. Mais entrons dedans. Entrons dedans et faisons la différence, soyons des bénédictions. Parce qu'on a reçu gratuitement, donc donnons largement de ce que nous avons, de nous-mêmes. Et le deuxième point qui pointe vers le royaume de Dieu, c'est que Job anticipe socialement le royaume de Dieu. Dieu nous libère. Si Dieu nous libère, c'est pour que nous le suivions dans la libération, et dans la libération à la suite de Jésus, qu'on voit dans l'évangile de Luc, hein, qui avait été cité hier soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour les opprimés, pour les personnes prisonnières, aveugles, les pauvres, etc. Et j'aimerais mentionner un texte de l'Ancien Testament que je trouve magnifique, en fait, qui est dans le livre de Joël, au chapitre 3, et où Joël dit, il annonce les temps à venir, et Joël, c'est à l'époque de la démocratie grecque, hein, en termes historiques, à l'époque de la démocratie grecque, où Athènes n'avait de droit de vote que les hommes athéniens, d'un certain âge, il y avait un âge minimum, il fallait être homme et il fallait être citoyen athénien. Et Joël, ce qu'il dit, voilà, Dieu va agir, et en ce temps-là, il répandra de son esprit sur... Il répandra son esprit, c'est bien, sur tout le monde, et il dit, vos fils, c'est vos descendants, hein, parce que Pierre dit, ça s'applique à partir de la Pentecôte. Donc vos fils prophétiseront. Là, les gens se disent, ok, c'est normal. C'est normal déjà, le fait que ce soit a priori tous les fils, c'est un peu étrange, mais Moïse l'avait dit. Il a dit, je souhaite que tout le monde parle au nom de Dieu. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu, c'est prêcher, c'est enseigner. Donc vos fils prophétiseront, mais après il ajoute, mais vos filles aussi. Vous y attendez pas, celle-là, mais vos filles aussi. On est au 8e siècle ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Vos vieillards auront des songes, donc Dieu leur parlera par des songes. Normal. Un vieillard, Dieu lui parle. Ah, vos jeunes gens aussi? Ah bon? Par des visions, recevront des révélations. Donc il ajoute, bah oui, les jeunes gens aussi. L'esprit va aussi agir par des jeunes gens. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, mais que personne ne te méprise. Tu as un don d'enseignement, un don d'évangéliste. Rentre dedans. Joël l'avait prédit que même des jeunes auraient des capacités. Et ensuite, il dit, et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, un serviteur ou une servante israélite devait être libéré au bout de 7 ans. Donc en fait, il désigne en droit les étrangers, ceux qui demeurent esclaves ou serviteurs-servantes. Donc l'Esprit du Seigneur descendra aussi sur les non-juifs, Et eux, ils parleront de Dieu, ils seront des prophètes. Alors que Jonas ne voulait pas aller voir les Ninivites, en fait, il y aura des Ninivites qui viendront prêcher en Israël. Et donc, ça nous signifie quoi ça? Ça nous signifie, on le voit en fait par rapport à Job. Job, il a 3 filles, il a 7 fils, et il partage ses biens également. Il n'y a pas de droit d'aînesse, et il n'y a pas de juste d'exclusion des filles du partage de l'héritage. Et quand vous voyez le nombre de biens qu'il avait, les filles, c'était des reines après. Hein. Enfin, c'était déjà des reines en un sens, quoi. Et ça, ça nous interpelle pour aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des vagues dans la culture qui opposent hommes et femmes. Il n'y a même pas besoin de voir. Hein. Il suffit d'entendre ce qui est projeté dans les contenus pornographiques et vous voyez que la femme, elle est complètement humiliée, quoi. Elle est rabaissée à moins qu'un homme. Mais là, Job, il va jusqu'à dire non, une femme et un homme, c'est égal. Donc, le patriarcalisme qu'on impute parfois au judéo-christianisme n'a rien de biblique. Quand on voit Job 42, quand on voit Proverbe 31, quand on voit Luc, non. Ensuite, nous-mêmes, un autre point qui peut nous interpeller, là, dans la ligne de Joël 3, mais c'est jeune et vieux. Il y a une époque où, enfin, en tout cas, sous nos latitudes, où on respectait beaucoup les aînés, mais on est plutôt rentré dans une époque où les aînés sont mis de côté. Sont relégués, même dans des espaces différents de leur famille, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et dans les 10 commandements, il y a « Prenez soin de vos aînés ». C'est un commandement des 10 commandements. Et Jésus montre bien quand il en parle que ça parle, c'est un commandement pour les adultes. « Honore ton père et ta mère », c'est pas un commandement pour les enfants. C'est un commandement pour les adultes, c'est « Prends soin de tes parents ». Il le montre dans l'évangile où il dit « C'est vraiment prendre soin matériellement et relationnellement, etc. » Donc, soyons aussi des prophètes du royaume de Dieu dans ce domaine-là, des jeunes et des vieux. Et le troisième point qu'on voit dans Joël 3, c'est être d'ici ou d'ailleurs. Et Joël 3 nous invite à cesser de raisonner en raciste, à cesser de raisonner en nationaliste, à cesser de raisonner en régionaliste aussi. Mais vraiment d'annoncer le royaume dans nos relations entre hommes et femmes, entre gays et filles, entre jeunes et vieux, et entre personnes d'ici et d'ailleurs. Annonçons le royaume par nos vies.
Nous allons chanter.
Thank you.
D'abord, j'avais deux petites choses à partager sur le livre de Job, qui me tenait à cœur. J'aimerais tout d'abord commencer par une question. À votre avis, quel est le message principal du livre de Job? Enfin, allez-y, proposez.
Dieu.
Quoi?
Dieu est Dieu.
Ouais. D'autres?
Dieu est souverain.
Dans la souffrance, Dieu est là.
Ouais.
Dieu est au contrôle de toute chose.
Je cherche un mot précis.
Un mot?
Qui parle, enfin, qui pourrait... Enfin, voilà.
Juste. Fidélité?
Ouais.
Souffrance?
Souverain. Souveraineté, ouais.
Encore?
Évidemment.
Tout puissant.
D'autres?
La souffrance?
Quoi?
La souffrance?
Non.
Délivrance?
Non.
Puissant.
Ouais, bah oui, je suis d'accord.
Moi, je vais dire, c'est le test parce que.
Ok. Silence.
Plénitude.
Ça fait partie des fruits de l'esprit.
Ah, la patience.
Bon.
Oui, mais.
Maîtrise de soi.
Bon.
La patience.
Bienveillant.
La douceur. La foi.
La paix.
Un des plus grands.
L'amour.
Non.
L'amour.
Oh. Sérieux?
Alors,
je sais plus
qui c'est qui en a parlé, mais en tout cas, moi, c'est vraiment... je tiens pas de moi, parce que c'était un frère qui m'avait posé cette même question. Donc, j'ai pas taillé comme vous, j'ai fait tout le tour avant de trouver l'idée voilà, qui voulait ressortir. Et puis, quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah ouais !» Enfin, j'étais juste là, waouh. Et j'avais tout simplement à cœur de vous partager ça, de voir que... je ne sais plus qui c'est qui en a parlé, mais en tout cas de voir cette confiance qu'on s'imagine, enfin vraiment, cette confiance que Dieu avait en Job, en la fidélité de Job, en l'intégrité de Job, se dire quand même le faire passer par tout ce qui est passé. Et bon, bien sûr, voilà, on sait que Dieu il est omniscient, il savait quelle allait être l'attitude de Job, mais prendre conscience du risque en même temps qu'il a pris, du challenge. Autant de l'amour de Dieu pour Job, et puis vice versa de l'amour de Job pour Dieu. Donc moi, je trouvais que c'était un message vraiment très fort et très très puissant. Enfin, c'est vrai que bien sûr ça parle de souffrance, de choses qui sont très dures, mais ce qui est beau, c'est de voir vraiment que Dieu il est beau. Enfin, c'est pas que il a permis le mal. C'est vrai que c'est une question qu'on a du mal à résoudre. Mais c'est que en fait le mal c'est un mystère, mais le mystère du bien il est tellement plus grand, tellement plus puissant que le mystère du mal, que Dieu quelque part ça lui fait pas peur vraiment, enfin toutes ces choses, parce qu'il sait au combien, enfin comme il dit aussi dans un verset, les quelques afflictions du moment produisent en nous un poids éternel de gloire, et lui voit nous on voit juste le bout de notre nez, enfin quand on souffre on n'arrive pas à voir très loin, mais lui il voit vraiment la fin, et vraiment d'avoir cette assurance qu'il a cet amour profond, puissant et vraiment presque insondable pour chacun de nous. C'est vraiment très important de le garder en tête, surtout dans les moments de difficulté. Et j'aimerais juste appuyer ça en lisant dans Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà.
Merci. Et du coup, pour finir ces encouragements dans vos marches avec Christ, je vous propose avec Charles qu'on vous donne les enveloppes.